passez une excellente année à l'écoute de Radio G.
Bonjour, c'est Raphaël et avec l'équipe de Thomas Sampler, on vous souhaite une très belle année 2021 sur Radio G.
Tendance à me plaire.
Et bienvenue dans l'émission Tendance à me plaire, épisode 9 de la 12e saison. Vous nous écoutez sur Radio G, sur Fréquence Zik ou bien en podcast. Un podcast disponible notamment sur le site de Radio G, sur Deezer et Spotify entre autres. Alors nous sommes heureux de vous retrouver en ce début du mois de janvier. Alors on ne vous a pas totalement quitté pendant les fêtes. Hein. Vous nous avez retrouvés lors de deux émissions spéciales. Et tout au long de notre concours, via notre compte Instagram. D'ailleurs on vous remercie pour toutes vos nombreuses réactions et commentaires. On vous souhaite à tous une très belle année 2021. Quoi qu'il arrive, on va se serrer les coudes et rester ensemble, notamment via les ondes. On vous promet encore de très beaux invités cette année, des gens passionnés et passionnants qui vous donneront la pêche, la banane ou le kiwi si vous préférez. Je n'assume pas du tout cette blague. Et et on commence fort avec Aishi, notre invité du jour, un aventurier qui réalise beaucoup de voyages, que ce soit par exemple en Afrique, en Islande, et qui, grâce à de magnifiques photos qu'il partage sur Instagram, nous permet également de nous évader. Vous allez l'entendre évoquer ses souvenirs tout à l'heure, ça va être fascinant. Aishi a voyagé également au Japon, et c'est ce pays qui a inspiré Caroline pour sa chronique mode. Salut Caro.
Salut. Exactement, on va faire un petit tour d'horizon du kimono, les street
styles,
etc.
Ok. On voyagera également avec Monsieur Kiosque. Salut Pierre Benoît.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tu nous parleras de l'aventurier Mike Horn.
Ben oui, c'est pas très très original pour parler aventure, mais je pense que tout le monde le connaît. Mais j'ai envie de revenir un peu sur ce qu'il a fait. C'est toujours sympa.
Très bien. Alors, on retrouve également Soso pour la Soso Touch avec des questions autour du nouvel an. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Bruno nous parlera du jeu Cyberpunk 2077 et de ses déboires, n'est-ce pas, Bruno ?
Tout à fait.
Olivier, quant à toi, tu nous parleras des films et séries qui doivent normalement arriver en 2021.
Normalement, oui. On espère.
Donc, bonne année à vous tous, hein, les chroniqueurs. On rappelle quand même à nos auditeurs que, eh bien, qu'on réalise cette émission un peu dans des conditions un peu particulières. On est chacun chez soi, on ne se voit pas, mais en tout cas, on se souhaite bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
Tout de suite, l'émission avec l'édito de Bruno.
Tendance à me plaire.
Ah, c'est à moi. Alors ce soir, c'est quoi ? Alors, un road trip. Eh ben, après le Lego trip de la dernière fois, on reste dans les abats. Hein. Manquerait plus qu'on parle de l'Eurovision. Hein. Le bad trip, quoi. Jusqu'à quand ? On sait pas. Hein, trip, quand ? À la mode des jeux de mots. Bref. En tout cas, des trips, notre invité en a. Il va dans les endroits les plus reculés du monde, plus loin, plus haut, plus dépaysant. Et le mieux, c'est qu'il partage ses aventures avec de superbes photos. Et ces voyages par procuration sont vraiment dans l'air du temps, du fait de notre confinement, certes, mais aussi grâce aux nouveaux moyens techniques ouverts au plus grand nombre. Les appareils photos sont toujours plus abordables, simples et performants. Les réseaux proposent aussi de nombreux filtres qui magnifient les clichés. Mais bon, il faut du temps et il faut dire du talent. Et notre invité en a indéniablement, car ses photos sont sublimes. Après, dans le genre photo de voyage, on a plus modeste. Hein, avec par exemple la page Insta de Raphaël. Alors, généralement, on a des photos de sa rue. Hein? Alors, des fois, il s'aventure à 40 mètres dans une autre rue, mais c'est rare, hein, quand même. Hein? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de l'année, on a sa rue par tous les temps, à toutes les heures. Enfin, c'est très bien. Encore plus minimaliste, on a l'Instagram de Caro. Alors elle se prend dans les toilettes. Alors je ne sais pas pourquoi, ou plutôt si, c'est là qu'elle peut trouver un miroir, seule possibilité pour elle de faire un selfie corps entier avec bas et chaussures en prime pour peu qu'elle mette les pieds sur le lavabo. Alors en parlant d'Insta, ça y est, au fait, Radio G a son Instagram.
Oh, bravo.
Eh oui, c'est une radio moderne. Hein. Mais bon, à l'instar du gouvernement qui ne veut pas trop chambouler les gens avec le vaccin, Radio G a pris son temps pour habituer petit à petit les auditeurs. Bon, alors pour les habitués de ma chansonnette le dimanche matin, c'est plus la peine de faire par exemple 3615 Radio Gribouille, hein, ça ne marche plus. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire la révolution non plus, hein. Sonia n'est pas prête d'avoir un Instagram. Ouf, on est sauvé. Alors donc, bonne émission à tout le monde.
Eh bien, merci Bruno. Alors, vous pouvez réagir à cet édito et à toutes les chroniques à tout moment hein, via nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Ce soir, on parle notamment d'aventures, de photos, avec notre invité du jour que l'on accueille tout de suite.
C'est l'heure de l'invité.
Avec nous aujourd'hui, nous recevons Aishi, un artiste photographe, une personnalité angevine positive qui déborde d'énergie et d'envie et aventurier dans l'âme. Nous avions envie vraiment de vous le faire découvrir. Alors pour ceux qui ont Instagram, on vous conseille en même temps de visionner son compte en tapant Aishimata et Aishi.jpeg. Alors Aishi, ça s'orthographie A-I-S-H-Y. Dis donc, c'est pas facile pour un début. D'ailleurs, bonjour Aishi.
Salut, bonsoir à tous.
Bah alors, première question, ça vient d'où ce nom, ce pseudo ?
Aishi, ça vient d'un pseudo japonais que j'ai inventé il y a très longtemps quand je jouais aux jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis c'était un petit peu plus long à l'origine, mais je l'ai réduit en Aishi pour faire plus court et depuis, ça me suit toujours.
D'accord. Alors, en parcourant les photos que tu publies, on est époustouflé par leur qualité artistique et on voyage vraiment, notamment à travers tes photos de paysages photographiés dans différents pays. Alors, ça nous fait vraiment rêver et on comprend qu'on a affaire à un passionné et à un professionnel. Hein. Raconte-nous ton parcours dans la photographie, notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo ?
Ouais, bah en fait moi c'est simple, c'est qu'à la base j'étais du coup plutôt dans la vidéo sur YouTube en fait. Je me filmais en train de faire des parties de jeux vidéo. Ça fonctionnait plutôt bien, tu vois. Et puis à force de faire des petites vidéos, je me suis vraiment intéressé du coup à ce média-là et donc j'ai décidé de m'acheter un appareil photo. Avec cet appareil, bah, je me suis mis à filmer un peu tout et n'importe quoi, aller faire des sorties, voilà, pour filmer et faire des un peu comme des petits clips de musique, mais à ma façon, sauf que c'était pas de la musique, je filmais dans les champs. Enfin voilà, je filmais tout et n'importe quoi, je montais ça me faisait des petites images. Et en parallèle de ça, moi tu vois, je travaillais en tant que graphiste, donc j'ai appris un petit peu en autodidacte la photo au fur et à mesure des années. Puis là en 2017, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une agence, donc c'est ce que j'ai fait et je me suis vraiment, j'ai vraiment switché du graphisme à la photo et à la vidéo dans mon côté pro.
Du coup, cette agence, en fait, t'a permis de travailler sur plein de projets, en fait. Tu es un petit peu aussi tout terrain. Hein. Tu photographies des artistes chanteurs, comme par exemple Odor, hein, c'est bien ça.
Ouais.
Des spectacles aussi que tu photographies, que tu mets en valeur, mais aussi des joueurs de foot ou des lieux incroyables. On va y revenir. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout des projets, des thèmes qui te tiennent plus à cœur ?
Moi, j'ai surtout eu l'occasion en 3 ans d'évoluer sur la partie studio, les portraits, tout ça. La lumière, quand on est amateur, on n'a pas toujours l'occasion de réaliser artificielle. En fait, c'est un truc que j'ai vachement développé et que j'adore faire. Surtout moi qui aime beaucoup travailler avec des lumières un peu dans les tons futuristes rose et bleu. Donc, en studio, on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on veut et de maîtriser la lumière soi-même, contrairement à la photo d'exploration un peu de nuit dans les rues, où là je vais plutôt jouer avec l'éclairage existant et les conditions naturelles.
Ben, justement, comment tu définirais ta patte artistique de photographe ? C'est quoi qui fait la différence avec d'autres photos plus classiques selon toi ? Qu'est-ce qui marche ?
Alors, à proprement parler, moi ce que par rapport, par exemple, quand je fais des expositions, je vais avoir tendance à mettre en avant mon travail que j'appelle cyberpunk. Donc, il va être de la photo que je vais faire beaucoup de nuit, par exemple, après la pluie, donc quand le sol est bien brillant, et pour essayer de capter vraiment tous les reflets dans le sol, dans les vitres, enfin, vraiment jouer avec l'urbanisme et essayer de proposer une version, une vision alternative de la ville, par exemple. Donc, en fait, quand on voit mes photos, on peut se dire, mais c'est pas du tout naturel. Enfin, j'ai jamais vu ça avec mes yeux, mais c'est un petit peu ce que je souhaite faire. C'est vraiment proposer une vision alternative de la ville qu'on connaît aujourd'hui avec ma patte cyberpunk. Et donc, c'est ça un petit peu qui fait l'originalité de mes clichés. Et voilà, j'ai beaucoup photographié à Angers au fur et à mesure des années en m'inspirant du Japon. Et j'ai fini par y aller voilà, de Angers au Japon.
Alors justement, du coup, on va en parler. Donc tes photos prennent vie souvent à l'occasion d'expositions où tu mets ton travail de cyberpunk en valeur, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer dans le détail ce que c'est cet univers pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Comment tu décrirais ça?
Alors c'est vrai que c'est un peu un terme un peu compliqué, cyberpunk, ça peut faire peur à première vue, mais en fait c'est une variation de la science-fiction, vraiment de voilà un univers un peu futuriste mais assez sombre. Quand on voit du cyberpunk, on pense au film type Blade Runner, des choses un peu comme ça, voilà, où voilà on est dans un univers un peu sombre et très futuriste. Et après moi voilà, c'est un peu ce que j'essaye de représenter à travers mes photos. Après je le fais de nuit, mais pas que, j'arrive aussi à créer ces ambiances de jour. Donc c'est un équilibre à trouver dans le traitement de mes images.
Et puis avec des couleurs particulières, des couleurs flash aussi, hein, des couleurs bien violettes, bleues, c'est bien identifié finalement.
Ouais, c'est ça, j'essaye de jouer sur les contrastes forts des couleurs, hein. Donc moi je suis graphiste à l'origine, donc tout ce qui est les couleurs, c'est mon domaine de base avant même de faire de la photo. Et donc jouer avec les couleurs qui tranchent, donc le bleu, cyan, magenta, ça marche très fort, ou même on peut aller sur du bleu et du rouge. Enfin voilà, il y a des équilibres très intéressants à trouver au niveau du traitement de l'image.
Donc là, ces photos, on peut les découvrir notamment sur ton compte du coup professionnel aichi.jpeg. Hein.
C'est ça. C'est un compte que j'ai créé où je mets beaucoup voilà, tout ce que je fais autour du cyberpunk. Et c'est dédié à ça, et ça permet vraiment aux gens qui vont sur ce compte de trouver vraiment ce que je fais dans le cyberpunk.
Mais moi, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de la voir, cette exposition. C'est vrai que c'est incroyable de voir aussi sa ville d'une autre façon, finalement, puisqu'on voyait également des photos de nos rues angevines, mais d'une autre façon. Et c'était incroyable, ça a eu beaucoup de succès, cette exposition. Tu as eu beaucoup de retours.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, tu sais, je suis très chauvin, j'aime beaucoup ma ville, donc j'étais très content de pouvoir la montrer sous un autre jour, parce que les gens me l'ont dit, ils n'ont vraiment pas l'habitude de la voir comme ça. Et aussi de mettre en avant, pas forcément les lieux les plus emblématiques d'Angers, mais de montrer qu'avec des petites ruelles, des petits endroits où j'aime moi aller à Angers, et ben on peut les montrer sous un nouveau regard, quoi.
D'accord. Alors pour parler maintenant de tes voyages, du coup tu as été donc en Islande, en Afrique et notamment et également pardon au Japon. Donc c'est un voyage qui t'a bouleversé. Raconte-nous ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que t'as vécu?
Non mais c'est ça. C'est le Japon. Disons que je m'en suis toujours inspiré dans mes images sans y être allé. Donc c'était un petit peu un doux rêve en arrière-plan là. J'ai toujours eu envie d'y aller. Et puis en fin 2019, je me suis dit allez, si je regardais un peu les billets d'avion pour la période des fêtes, tout ça, histoire d'aller passer le nouvel an à l'étranger. Et puis bon, j'ai regardé pour le Japon. Et puis là voilà, j'ai trouvé une offre assez intéressante. Et je me suis dit allez, c'est maintenant. Je suis parti tout seul, donc j'ai réservé mon billet d'avion le 26 novembre de mémoire pour le 26 décembre, donc vraiment un mois avant. Et je suis parti un petit peu en improvisation sur un coup de tête, et je pense que c'était une très bonne décision, parce que là-bas je suis arrivé un peu voilà, sans rien connaître du pays. Je me suis allé en totale improvisation, tu vois. Ensuite après ce pays, bah voilà, j'arrive tout de suite, j'ai trouvé tout ce que je cherchais, c'est-à-dire beaucoup de sources de lumière, de la foule aussi. J'ai pas eu l'occasion de photographier des grandes villes au final, puisque Angers ça reste très très petit à côté d'une ville comme Tokyo. Donc j'ai pu vraiment me faire plaisir là-dessus, et c'était vraiment des nuits blanches aussi passées dans les rues, c'est-à-dire que je sortais le soir, je partais un petit peu avant l'heure, avant les derniers métros par exemple, tu vois, et comme ça je passais vraiment ma nuit quelque part dans une zone où il n'y avait plus de métro. Donc c'est-à-dire que les gens, la plupart rentraient chez eux, et donc tu avais les rues assez vides, donc j'avais vraiment de quoi m'amuser pour faire les photos. Et au final, c'est aussi là que tu te rends compte que bah, Tokyo, c'est jamais vraiment vide, parce que même à 4h du mat, tu trouves des restos ouverts. C'est une ville qui s'arrête jamais de vivre.
Ah ouais. Et du coup, tu t'as même rencontré ton photographe préféré par hasard, en fait, dans une rue, il me semble. Hein.
Ouais, en fait, c'est assez drôle, c'est qu'on se suit sur les réseaux sociaux, tu sais, voilà, on avait déjà interagi ensemble. Et quand j'ai su que je partais au Japon, bah, je lui avais envoyé un petit message pour lui dire, tiens, est-ce que tu as des choses à me recommander sur le Japon, des bonnes adresses, des choses comme ça. Donc, lui n'est pas japonais, mais il y va régulièrement. Donc, je lui ai posé la question, et il m'a gentiment recommandé des trucs. Il m'a demandé mes dates, et en fait il s'est retrouvé qu'il était là-bas aussi en même temps que moi. Il m'a dit bah tiens, si tu veux on se captera. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en fait il m'a croisé dans la rue, il m'a reconnu, mais il n'était pas certain que c'était moi. Donc il m'a envoyé un message pour me dire attends, c'était toi tel endroit avec ton bonnet et ton tapis. Bah ouais. Et le plus drôle, c'est que moi, je filmais à ce moment-là et j'ai la séquence vidéo, il passe devant moi. Donc là, c'était vraiment la totale. Oui, c'était très drôle. Donc, au final, on ne s'est pas croisé à ce moment-là, mais on se donnait un rendez-vous. Et je trouve ça vachement inspirant de rencontrer un peu la personne qui t'a donné envie de. Bah, moi, clairement, qui m'a donné envie d'aller voir le Japon, de faire de la photo, tu vois. Donc, on a photographié ensemble. Il m'a montré son endroit préféré de Tokyo. Il m'a invité dans son restaurant de ramen préféré. Vraiment quelqu'un de très adorable, Liam Wong. Hein, si vous ne connaissez pas, il faut aussi découvrir son travail. Donc, il est très dans le cyberpunk aussi, mais pas que. Un très très bon photographe.
Et puis dernièrement, tu as voyagé également en Islande, tu as fait un road trip, une aventure extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas dans ce voyage?
En fait, faut quand même avouer qu'après un confinement, on a des quand comme moi j'aime beaucoup, moi j'ai la bougeotte, tu vois. Donc après le confinement, j'avais besoin de reprendre un peu de liberté et donc j'ai eu l'occasion de partir en Islande là voilà cet été et hop, une semaine, un van avec un ami. On a fait 2500 km tout le tour de l'Islande. Et donc, on s'est fait tout un petit parcours. Enfin, c'est fou. Tu passes de la plage à la montagne, plage de sable noir. T'as des lacs de glaciers. Donc, tu vois des icebergs, des cascades gigantesques. Enfin, c'est fou.
Ouais, et ça donne des photos particulières, singulières, avec des paysages blancs, en fait, des paysages glacés. Est-ce que tu as vu des aurores boréales?
Alors, j'y étais en été. Donc, c'est pas la période malheureusement parce qu'en fait je n'ai pas vu la nuit du tout c'est-à-dire que c'est le soleil éternel l'été et puis l'hiver c'est quasiment la nuit infinie aussi donc faut vraiment choisir sa saison là-bas c'est six mois de jour ou six mois de nuit donc j'ai pas eu la chance de voir des aurores boréales mais j'espère y retourner en hiver pour pouvoir les capturer aussi avec mon appareil photo.
Et depuis donc quelques jours, tu as annoncé sur ton compte que tu travailles désormais en tant qu'indépendant. Alors, quels sont les projets sur lesquels tu vas travailler ou est-ce que tu as vraiment une envie particulière là pour les prochains mois qui arrivent?
Oui, c'est ça là, tu vois. Donc après 3 ans en agence, je me suis dit qu'il était un peu temps pour moi de me lancer aussi de mon côté. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment avec la période actuelle, mais je me suis dit que il fallait y aller. Là, j'ai eu des premiers projets qui sont tombés qui m'ont aussi permis d'y aller. Et là, en ce moment, en fait, je travaille sur quelque chose qu'on me demande beaucoup, c'est les tirages photos en fait. Quand j'expose, on me demande, tiens, est-ce qu'on peut avoir vos photos et tout? Donc, moi, la manière la plus simple que j'ai trouvé de faire ça, c'est d'ouvrir une boutique en ligne afin de proposer mes tirages dessus. Donc là, je travaille sur l'ouverture de mon site internet. Puis, sinon, voilà, c'est un petit peu le développement de mon entreprise, de projets, peut-être de nouveaux voyages à l'avenir.
Et puis, on peut s'offrir aussi tes belles photos en grand, hein, dans des cadres, hein, j'imagine.
Oui, c'est ça. Oui. Comme, voilà, c'est tout ce que j'expose est disponible ensuite. Si on veut les avoir chez soi.
Dernière question, du coup, un peu plus personnelle. Alors, on imagine que ça a un coût, finalement, tout ça. Ça demande peut-être des sacrifices. Comment tu finances tes voyages? Comment ça se prépare? Est-ce que tu as des conseils à donner?
Ouais, c'est clair. Par exemple, sur un voyage comme le Japon, si on veut, on peut en parler des chiffres. Moi, je sais que mon voyage au Japon m'a coûté un petit peu moins de 4000 euros. Donc, tu vois, c'est des budgets entre l'avion, l'hébergement, la nourriture. C'est des gros budgets. Après, j'y suis allé vraiment dans un optique professionnelle, c'est-à-dire faire de la photo pour derrière, monter des expositions, proposer des tirages. Donc, c'est quelque chose que je souhaite rentabiliser à terme aussi. Mais en dehors de ça, c'était une expérience très riche humainement parlant. En dehors du plan financier, c'est des voyages qui changent quelqu'un, je pense, et qui font vraiment du bien. Moi, en tout cas, j'en avais besoin et ça m'a vraiment fait du bien ce voyage. Et donc voilà. Après, le plan financier, ça reste aussi l'investissement matériel, tout ça. Mais c'est comme toute entreprise. En dehors de un musée a besoin d'acheter une scie, enfin voilà, ça reste des investissements qu'il faut rentabiliser comme toute entreprise.
D'accord, en tout cas on pourrait parler des heures avec toi hein, parce que j'imagine que tu n'as pas encore plein de choses à nous raconter. Tu restes avec nous pendant tout le long de l'émission. En tout cas, on te souhaite également une bonne route dans ton parcours et dans ta nouvelle vie professionnelle. On va continuer à te suivre et on partagera bien évidemment les liens vers tes comptes pour que nos auditeurs puissent te découvrir. Mais pour l'heure, retrouvons la chronique mode et stylisme de notre pétillante Caroline.
Bonsoir à tous. Et oui, en effet, ce soir, on va faire un petit tour d'horizon de la mode du Japon. Ça va nous changer un petit peu, voilà. Alors, je vais vous parler des quelques règles de base déjà à respecter sur la tenue vestimentaire. Ensuite, on verra comment bien choisir son kimono. Ça, c'est important. Ensuite, nous verrons 3 petits looks actuels et plutôt street style typiquement japonais. Mais enfin, je vous parlerai des marques japonaises connues en France. Alors, bah, déjà, pour commencer, quelques règles de base sur les tenues vestimentaires, même si elles concernent principalement les femmes, en fait. Donc, le Japon, même si c'est un pays très moderne, c'est un pays qui a gardé quand même quelques principes un petit peu de base, etc., très différents de la France. Donc, par exemple, la notion du très court. Voilà, le Japon est souvent appelé, en fait, dans la mode, le pays des jambes. Et en fait, le très très court est bien vu là-bas, à condition de respecter quelques règles, en fait. Tout est une question de respect de la tenue et de l'ensemble, en fait. Une tenue décontractée, voire sport, ou encore une tenue costumée, permet toutes les excentricités. Donc, on peut vraiment porter du très très court et du très très décolleté, mais avec condition, en fait. Pas dans une tenue de tous les jours, et voilà, pour que la tenue soit spéciale, en fait. Il faut également faire attention à la ville dans laquelle vous vous situez, et surtout dans les quartiers. Certaines zones plus rurales sont un petit peu plus sensibles, et par exemple, même si vous êtes un touriste, en fait, l'ensemble short débardeur est souvent pas très bien vu, en fait. Des petites choses qui peuvent nous paraître un petit peu simples sont un petit peu plus subtiles, voilà, selon les zones et les quartiers. C'est un pays, en fait, qui est... Pardon ?
Non, les codes sont différents de chez nous également, j'imagine, au Japon.
Exactement, en fait.
Mais moi, ça m'avait choqué, ça, d'ailleurs, ce coup des mini-jupes. C'est que moi, j'y étais en hiver, il faisait très froid, et il y avait des gens partout en mini-jupes dans la rue. Mais j'ai dit, mais comment elles survivent ? Il fait très froid, et elles étaient en mini-jupes. J'étais là, mais... ouais, moi, j'avais mon gros manteau à côté, je me sentais faible.
C'est ça, c'est incroyable, en fait, le décalage avec même quelque chose qui ne passerait, du coup, pas trop en France, en fait. Et c'est ce qui est super intéressant. Voilà, donc en fait, c'est un pays qui est fait aussi de rites et de croyances. Et pour ça, il faut aussi respecter. Donc c'est vrai que les épaules, c'est une partie un petit peu du corps qui est sensible. Et elle est souvent couverte. Parce que c'est aussi un signe de respect. Voilà. Donc il faut veiller à ça un petit peu partout dans le pays. Il y a aussi et surtout un vrai blocage, par contre, au niveau du décolleté des filles. C'est pour cela que les femmes trouvent difficilement des chemisiers. Parce qu'en fait, le boutonnage est situé pile sur ce qu'on appelle au Japon la ligne de la poitrine, et elle permet de choisir en fait la profondeur du décolleté. Et c'est quelque chose qui est très mal vu, en fait. Le haut doit être vraiment couvert au Japon. Donc la chemise, c'est vraiment un article qui est banni du Japon. Hors costume, voilà.
Donc Raphaël, tu peux être en jupe, il n'y a pas de souci.
D'accord. Mets une chemise pour les fesses.
Je note.
Voilà, donc ensuite on va parler du kimono, parce que évidemment c'est l'habit qui représente le mieux le Japon. C'est incontournable, un kimono. Je ne sais pas si tu as pu t'en offrir un.
Moi j'ai alors je m'en suis pas acheté, mais j'ai eu un, c'est presque pareil, j'ai eu un yakuta dans un, j'étais allé dans un ryokan, une auberge traditionnelle, et en fait tu avais ça quand tu arrivais dans l'auberge, et donc tu te changeais pour pas te promener avec tes vêtements, ou le matin tu mettais ton yakuta pour aller prendre le petit déj, et c'était vraiment l'habit traditionnel, c'était vraiment trop mignon.
Ah ouais, c'est vraiment super. Et c'est vrai qu'il y a différentes, il y a des petites déclinaisons du kimono, le vrai gros kimono traditionnel a plein de pièces, mais c'est vrai qu'il y a le yakuta qui est un peu plus facile à porter. Donc il n'est pas rare même de voir des filles en kimono vêtues comme des geishas dans la rue. C'est une vraie institution, c'est vraiment magnifique en plus. Et l'idéal bien sûr c'est de s'en faire un sur mesure si on voyage là-bas, mais un kimono sur mesure avec une très bonne qualité, avec une très belle matière, coûte idéalement dans les 1 700 €.
Et ça d'ailleurs, ouais, quand même. Pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de lieux touristiques où en fait il y a des gens, ils y vont, ils louent ces tenues pour venir se prendre en photo avec les tenues traditionnelles. Je voyais ça tout le temps, c'était hyper drôle.
Ah excellent.
Ou des gens qui vont se marier, hop, ils prennent ça et puis ils vont faire des photos devant les monuments historiques. Je voyais ça tout le temps.
Et donc alors 1 700 € pour un kimono de luxe, évidemment, parce qu'il faut le choisir en soi. Voilà, à quoi on peut reconnaître un beau kimono ? Eh bien, tout simplement, les motifs sont peints sur la soie, au lieu d'être teints dans un tissu, en fait. Donc, il y a certaines enseignes qui vous autoriseront même à tester, donc à l'aide d'un briquet, il faut faire flamber un petit bout du kimono pour voir si la qualité est une qualité naturelle, ou alors issue de...
Après, par contre, tu peux pas l'acheter, il y en a plus. Il est brûlé.
Oui, il est brûlé, ouais, c'est con.
Et en fait, ben voilà, c'est une belle pièce à avoir, donc autant mettre un petit peu les moyens pour avoir la belle pièce, etc. Et surtout, c'est super repris dans le monde entier comme vêtement d'intérieur. Donc par contre, il faut super bien l'entretenir pour le garder, parce que c'est très précieux et extrêmement fragile, hein, pour en prendre soin. Il faut le laver très peu et le plier dans une enveloppe, en fait, qui a un nom particulier d'ailleurs au Japon. mais en fait, il faut la ranger, le ranger pardon, comme un costume. Ouais. Alors, par contre, alors, en 2020 et 2021, comment s'habillent les Japonais ? Eh bien, en fonction de certains quartiers, il y a une attribution de look, en fait. Par exemple, Osaka, ce sont plutôt les jeunes actifs, donc ils sont assez ouverts, il y a une vraie mixité au niveau des vêtements. Si vous allez du côté d'Harajuku, eh bien, le quartier est un peu plus excentrique. C'est là que vous voyez les gens très costumés, très inspirés par les mangas, et où les filles ressemblent à des vraies poupées, en fait. Ce sont les Harajuku Girls. Et enfin, à Shibuya, en fait, là, c'est vraiment le quartier très pointu, très créateur, qui a eu renommée dans le monde entier. Donc voilà, donc de manière générale, pour un look fashion au Japon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a une base, leur base, en fait, elle est très inspirée par l'Europe, évidemment, et particulièrement par la France. Donc, on fait beaucoup d'accumulations sur une base neutre. Voilà, les Japonais adorent les multicouches. Et on rajoute une petite pointe d'excentricité de décalé derrière. Donc, moi, j'ai repéré, parce que j'adore regarder sur les street style japonais, etc. Il y a d'ailleurs de très bons sites à regarder sur Google. Mmh. Un petit look typique, en fait. C'est une jeune fille qui a un t-shirt rock, un perpéto et un pantalon large avec des grosses rayures. Donc, la base, elle est noir-blanc. Donc, c'est très neutre, très simple. Et c'est quelque chose qu'on pourrait voir en France. Mais par contre, avec le petit plus, c'est la touche pop. Donc la jeune fille a des chaussures rouges, le t-shirt est jaune et elle a un sac prune et elle a le crâne rasé avec les cheveux peroxydés. Voilà, donc c'est un look typique jeunesse pointue quand même et fashion japonaise. Un look numéro 2, c'est également une autre jeune femme qui a une combi army khaki. Donc pareil, une base, un basique de la mode européenne et internationale, avec des bottes à très haut talon, mais décalées avec un parapluie bleu, une fourrure et un foulard rouge au cou. Voilà, donc le maître mot, en fait, de la mode japonaise, c'est la longueur, en fait. Jouer avec les proportions, l'accumulation, par exemple, une robe sur une chemise avec un par-dessus sous une fourrure, et une pointe d'excentricité et de folie, comme des chaussettes fluo dans des chaussures vernies. Alors après, les chaussures vernies les plus bizarres possibles, hein. Des chaussures élisabéthaines ou des triples plateformes. Voilà, donc je pense que vous visualisez à peu près, quoi.
Mais carrément, ouais, ça me parle.
Mais ça donne pas envie quand même, hein.
Ah, ouais, mais c'est atypique. À un moment, ça me fait penser un peu au look des petites anglaises ou autres.
C'est vrai que t'allais dire de Bruno.
Avec son t-shirt optique, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, en fait, la base, c'est la culture européenne et très française, qu'ils adorent, les sacs de luxe, etc. Donc, c'est rare, en fait, au Japon. Donc, voilà. Alors, par contre, nous, en France, on a quelques marques japonaises qui ont percé depuis plusieurs décennies et que tout le monde connaît, je pense. Et donc, je vais vous en parler. Est-ce que vous connaissez Uniqlo ?
Bien sûr. Oui.
Bien sûr. Oui, c'est une marque qui est implantée depuis plusieurs décennies dans les grandes villes. C'est une marque de vêtements casual et unisex. Ils font de très bons basiques. Et c'est la marque japonaise qui fait fureur pour tous les âges et pour tous les sexes. C'est vraiment trop bien. Uniqlo, c'est des bons basiques dans le dressing. Ensuite, il y a Comme des garçons. Contrairement à son nom, ce n'est pas une marque française, en fait. Sa créatrice est très connue et c'est très excentrique. Et c'est connu parce que, en fait, le logo, on le voit partout. Il y a une collaboration avec Converse aussi. C'est un cœur avec des yeux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Comme des garçons.
Là, comme ça, non. OK.
Et enfin, il y a Yoji Yamamoto. C'est un des plus gros créateurs japonais, très avant-gardiste. Très noir, long et déstructuré, mais c'est un des pionniers de la mode japonaise, il est connu internationalement. Et merci. Enfin, alors en vrac, le truc qui est plutôt rigolo au Japon et qui est un peu exceptionnel, c'est qu'en fait la Fashion Week de Tokyo est une des seules à avoir le nom de son sponsor dans son nom, en fait. À la base, elle s'appelait la Fashion Week de Tokyo, sponsorisée par Amazon, et depuis 2019, en fait, c'est Rakuten qui a racheté la Fashion Week et qui a décidé d'imposer son nom. Donc depuis, nous devons dire Rakuten Fashion Week de Tokyo. Et c'est la seule au monde à faire ça.
Ah, parce qu'en France, ça ferait moins bien Monoprix, la Fashion Week, ça ferait moins bien quand même.
Ouais, Leclerc Fashion Week.
Ouais, c'est ça, ouais.
Chèvre blanche.
La chèvre blanche Fashion Week.
Et ben voilà.
En tout cas, merci Caro pour cette rubrique très très documentée. Alors, on va continuer de voyager, mais cette fois-ci en évoquant l'aventure hors norme d'un aventurier tout aussi hors norme. Je veux parler de Mike Horn et c'est Monsieur Kiosque qui nous en parle.
Du coup, oui, Mike Horn. Alors, vous connaissez Mike Horn, j'imagine.
Oui.
Oui, Raphaël, tu connais Mike Horn.
Bien sûr, je regarde toutes ces
émissions. Même moi, je connais Mike Horn.
Mathieu, tu connais Mike Horn?
Oui, et puis surtout en ce moment, il a été très médiatisé, c'est donc oui.
Voilà. Et ben moi, quand Raphaël m'a parlé d'aventure et tout, j'ai pensé à Mike Horn parce que j'ai lu son livre Latitude Zéro. J'espère que vous l'avez lu aussi.
Tout à
Peut-être
fait.
Pas. Tout à fait.
Mais si, je l'ai lu trois fois.
Ah, ça, c'est un mensonge, monsieur. Alors, juste pour présenter Mike Horn brièvement, aujourd'hui, c'est un. On va dire que c'est un conférencier qui évoque le développement personnel, qui explique comment affronter les défis, avoir la bonne attitude morale pour sa propre vie et les défis qu'on peut se lancer. Et je pense que, bah Mathieu, ce que tu as vécu avec la photo, ton parcours, c'était un défi sûrement, donc ça pourra peut-être te parler. Il a écrit des livres donc, et on va s'intéresser à ses livres, notamment celui qui s'appelle « L'attitude zéro ». Pour savoir, Mike Horn, c'est un Sud-Africain à la base qui a 25 ans alors qu'il gagnait un pognon monstre. S'est dit, allez hop, je vends tout, la voiture, les maisons, enfin la maison. Il a organisé une fête chez lui et il a dit à ses amis, à sa famille, vous prenez tout, je veux rien garder. Il a juste pris un sac à dos, il est parti en Suisse, il avait 25 ans et il arrive en Suisse avec rien à faire quoi, en fait, avec tout à faire. Il a donc travaillé, il a dormi sous les ponts, enfin c'est un truc de ouf. Donc quand un mec comme ça vous parle de développement personnel et d'avoir une bonne attitude morale pour affronter nos défis, eh ben, je pense qu'on peut lui faire confiance. Alors, L'attitude zéro, c'est un livre dans lequel il raconte son exploit de parcourir le monde en suivant la ligne de l'équateur. À votre avis, ça a duré combien de temps cette affaire ?
Oh bah c'est l'équateur, donc c'est plus grand alors, c'est le plus long.
Bah c'est le plus c'est là où le globe terrestre est le plus grand.
Ouais, au moins 5 ans.
5 ans ?
Ouais.
Il est fou ?
Non.
Quoi ?
Non, il a pas pris 5 ans, il a pris une grosse année à faire ça.
Ah oui. Ah bah il a été vite quand même.
Il a été vite et en plus ce qui est incroyable, c'est qu'il a été à la seule force de son énergie en fait musculaire. Il a fait du vélo, mais il n'a pas pris de voiture, il n'a pas pris d'avion. Il a fait du bateau pour traverser la mer, il n'a pas nagé non plus. Mais du coup, c'était sans moteur. Donc, il décide de partir, je crois que c'est en septembre 1999. Il enterre des petits cailloux sur la plage, sur la côte africaine. Il monte dans son tout petit bateau, qui à la base était quand même prévu pour les lacs. Le mec, il traverse l'Atlantique avec, c'est plutôt osé, va-t-on dire. Donc, il arrive de l'autre côté sans trop d'encombre, sauf que là, forêt amazonienne, donc il a sa petite machette, il fait des entailles comme ça dans la végétation pour se frayer un chemin, et bon, il a un GPS pour éviter de partir trop loin de la ligne de l'équateur, et là, il se fait piquer par une migale. Enfin, une araignée, je ne sais pas si c'est une migale.
Le cauchemar.
Alors il se dit, bon, c'est pas trop grave, le mec, il a pas peur des migales, tu vois, il se dit juste, oh, c'est une grosse bête. Sauf qu'il commence à être pris de fièvre, à avoir une ossiasse carabinée, un truc de dingue. Il est tout seul, il n'a pas de médecin, il n'y a rien du tout autour de lui. Donc là, il se dit, bon, je vais me poser dans mon hamac, on va voir ce qui se passe. Ça dure 2-3 jours, il a l'article de la mort presque. Et ça s'en va. Et du coup, il y retourne. Et il continue son petit périple. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Amazonie, il y a un petit peu de trafic de drogue par là-bas.
Aussi, ouais.
Les mecs, ils commencent un peu à lui dire « Tu fais quoi, toi, là ?» Ils sont armés, évidemment. Alors, il explique qu'il a un truc en plusieurs langues, je crois, où il leur parle pour leur expliquer qu'il fait le tour du monde et tout. Bon, ça s'apaise, sauf que les trafiquants de drogue, pour un peu le surveiller quand même et s'assurer qu'il s'en va après être passé, ils l'emmènent, c'est-à-dire sur leur bateau, ils lui font traverser un bout de rivière, comme ça, 5 km, et ils l'emmènent à un autre point qui est de l'autre côté, et puis ils se disent « Comme ça, on s'en débarrasse. » Sauf que Mike Horn, il se fait, mais le problème, c'est que là, les 5 km que je viens de faire, je les ai pas fait à pied, en vélo ou en nageant. Donc, il est retourné en arrière, comme ça, en skate, derrière les trafiquants de drogue, pour refaire les 5 km qui manquaient. Après avoir traversé l'océan Pacifique et des tempêtes sur son petit bateau, avoir rejoint l'Afrique, donc si vous comprenez bien, il est parti d'Afrique et il revient en Afrique de l'autre côté,
coup ?
Eh ben, il arrive à son point de départ, tout simplement. Il retrouve les petits cailloux qu'il avait enterrés dans le sable sur la plage en partant un an plus tôt. Donc, il conclut que souvent, les plus grosses difficultés qu'il a eues pendant son périple, vous lirez le livre, hein, parce que là, je l'ai brièvement résumé, très brièvement. Les plus grosses difficultés qu'il a eues, en fait, c'était au contact des hommes, parce que dans des situations extrêmes comme ça, dans des pays tendus, c'est pas les lions qui lui ont fait peur en Afrique, c'était en fait les guérillas, les mercenaires qu'il a rencontrés. Mais les hommes sont aussi ce qui font notre voyage quand ça se passe bien, puisque le vrai voyage, c'est notre rencontre, c'est les rencontres qu'on fait.
Bien sûr.
Donc c'est beau.
Donc on
c'est
beau
pour Monsieur Kiosque.
Merci. Bravo. Merci, merci Pierre-Benoît, bravo.
Mindform, là, très récemment, il a lancé une chaîne YouTube où il sort des formats très courts, voilà, des petites vidéos de moins de 10 minutes dans lesquelles il parle de ses expéditions, où il traite de petits sujets. Voilà, c'est très intéressant.
Il en parle beaucoup du moins.
Allez, merci Pierre-Benoît. Alors, elle aussi nous fait voyager, mais avec sa chaleureuse voix. Voici Soso et sa chronique pour être encore plus proche de vous. Voici la Soso Touch.
Tendance à me plaire.
Bonsoir à tous. Alors, je vous souhaite quand même mes bons voeux, hein, une belle et heureuse année, et qu'elle vous apporte joie et bonheur. Alors, je vous explique rapidement le concept. Hein. Vous êtes bien installés. Et donc là, je suis à votre écoute. Vous avez carte libre pour me poser toutes vos questions. Alors, je vous écoute. C'est parti.
Tout à fait. Alors, une première question d'Olivier. Quelle recette de grand-mère pour la diète d'après-fête ? Qu'est-ce que tu conseilles, Soso ?
Alors bien écoute Olivier, je pense que c'est the questions. Merci de l'avoir posé. Hein. J'espère d'ailleurs que vous avez tous bien profité de vos fêtes de fin d'année. Mais on le sait tous, qui dit fête dit bien sûr très très léger, mais vraiment très légers excès, type foie gras, saumon, je sais pas moi, plat en sauce, les fromages, les bûches, les chocolats et effectivement l'alcool. Enfin presque trois fois rien. Alors avouons-le, à la période des fêtes a eu raison de nous, mais fort heureusement. Soso est là pour vous donner des petits conseils histoire d'améliorer votre digestion hein, et de passer un hiver en parfaite santé, en toute légèreté, dans un corps purifié et rééquilibré, tout un programme. Alors par exemple, première proposition, pourquoi pas une petite boisson détox de notre grand-mère. Alors je vous propose par exemple sur une semaine d'essayer chaque jour de boire cette petite décoction hein, donc vous prenez une grenade avec un demi-citron, du thé vert, des baies de goji, un peu de miel. Et puis, donc, je vous donnerai la petite recette si ça vous intéresse.
Oui.
Du coup, vous faites cette petite décoction hein, sous forme de tisane. Et puis, vous allez pouvoir en boire régulièrement. Et là, donc, vous allez voir, ça va vous donner vraiment une vitalité et une détox assurée. Sinon, deuxième proposition, comment décrasser notre foie ? C'est important. Alors, vous allez pouvoir, par exemple, ça c'est très simple, hein, vraiment à portée de tous, diluer un jus de citron chaque jour dans une bouteille d'eau minérale. Donc, il faut compter 1,5 litre d'eau. Et donc, ça va vous permettre surtout de vous réhydrater. Et puis, surtout, si vous avez l'organisme un peu fatigué, le citron va pouvoir rééquilibrer votre système digestif et stimuler surtout l'élimination des toxines. Donc, ça, c'est le plus simple à faire, mais c'est recta, ça marche à tous les coups.
Ouais, je te coupe ce soir, mais moi je le fais effectivement pour la petite anecdote. Mais je le fais à jeun en fait le matin, ce qu'on m'a conseillé dans de l'eau tiède.
Alors dans de l'eau tiède, ça c'est il y a ça, mais sinon matin. Tout au long de la journée pour pouvoir réhydrater et puis aussi voilà c'est. Mais d'accord. Tu as raison, le côté du petit jus de citron le matin pour donner un petit coup de peps et tout, c'est une très bonne idée aussi. Merci Raphaël, tu complètes ma chronique, j'adore, bravo. Sinon troisième proposition, là c'est la totale. J'espère que vous êtes bien assis. Alors, vous faites un mix de chardon-marie, radis noir, feuilles d'artichaut, feuilles ou bien racines séchées de pissenlit. Et là, c'est assuré, vous serez détoxifié pour des siècles et des siècles. Amen.
Ah bah oui, on va gerber pendant deux heures, donc c'est sûr que ça va détoxifier.
Ah bah voilà, tu vois.
Ah bah tu vas dans les champs. Tu fais ta petite réserve cet été, au printemps.
Ah ben voilà, faut qu'il pense.
Ben voilà. Et puis sinon quand même, je vous propose de compléter ces recettes magiques et je vous propose peut-être chroniqueur et même vous auditeur de relever le défi de janvier. Est-ce que ça vous parle ?
Non. C'est pas boire d'alcool, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, le dry
January.
Alors, le principe, qui est un petit peu comme le mois sans tabac, ça va être de proposer une pause d'alcool pendant un mois, donc sur le mois de janvier, pour donner du répit à votre corps et éventuellement aussi à votre porte-monnaie, et également pouvoir faire le point un peu sur la place qu'occupe l'alcool dans votre quotidien. Donc, les bénéfices quand même, le principe pour la santé, perte de poids, meilleur sommeil, regain d'énergie, meilleure concentration, et au final, à terme, peut-être une consommation d'alcool pour certains qui pourrait être mieux maîtrisée. Donc, il y a le site web www.drygenuary.fr, et puis il y a aussi, c'est nouveau cette année, une application qui est en français, donc vous pouvez télécharger Try Dry.
Voilà, oui, c'est en français, oui.
Oui, mais le reste de l'appli est française, oui, alors ça. C'est en anglais. Ça, c'est nouveau. Okay. Donc voilà pour mes petits conseils détox de grand-mère.
D'accord, alors une question maintenant de Francine. Ça vient d'où la tradition de la fève et des galettes?
Alors, Francine, vous le savez sûrement, dimanche dernier, 3 janvier, c'était l'épiphanie. Et donc, tout au long de janvier, vous pourrez déguster des galettes des rois et vous serez peut-être déclarée reine de la journée. Alors, que vous soyez plutôt frangipane ou briochée, elles ont toutes une chose en commun. Qu'est-ce que c'est, bien sûr?
Ça s'appelle Francine.
Elles font grossir
la fève.
Elles font grossir effectivement, mais sinon c'est la fève. Et donc d'où la question, mais d'où vient cette tradition de la fève? Alors je vais vous le faire court. Mettre une fève dans sa galette remonte à l'époque des Romains. Pendant l'Antiquité, ils célébraient les Saturnales, c'était une fête consacrée au dieu Saturne, comme son nom l'indique, et lors de ces festivités, ils organisaient d'énormes festins durant lesquels ils partageaient un gâteau, et celui qui obtenait la fève, alors à l'époque c'était la légumineuse, le petit légume, la fève, eh bien il devenait roi pour la journée, il pouvait donner des gages aux personnes, et du coup il était le roi de la journée. Et puis ensuite, c'est au XIVe siècle, l'Église française s'est appropriée cette tradition, et d'où ensuite la galette des rois avec l'épiphanie et les rois mages. Voilà. Et puis au cours de l'histoire, les fèves qui étaient initialement des légumineuses, elles ont été ensuite remplacées par des fèves pièces d'or ou bien ensuite des fèves en porcelaine à partir de 1875. Et puis ensuite, on voit arriver la porcelaine de Limoges. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voulait? Le plastique, le métal doré, les pâtes de verre et puis la céramique. Et bien sûr, ça fait le bonheur des collectionneurs, n'est-ce pas, Raphaël?
Oui, tout à fait. Oui, ma belle-mère surtout. Alors, une question de Marie qui se demande comment tenir ses bonnes résolutions.
Ah, alors ça, c'est la très bonne question. Eh bien, je vous propose ma méthode qui est de ne pas prendre de bonnes résolutions. Et ma résolution, ce sera ma résolution pour 2021. Et donc, je vous conseille que de l'adopter. Parce qu'en l'occurrence, ça fonctionne à tous les coups.
Oh, t'as bien raison.
Voilà, pas de bonne résolution pour moi.
Alors, une question d'Anne maintenant qui se demande pourquoi dans les pays scandinaves, les portes et fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur.
Alors écoute, c'est une bonne question parce que j'ai découvert, donc je me suis documentée et je dirais qu'effectivement c'est le style scandinave qui veut ça. Ça fait partie des tendances les plus identifiables de ces régions. Donc du coup, eux, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir de l'espace et du confort. Ils veulent que ce soit pratique. Donc les fenêtres, elles ont la spécificité de s'ouvrir vers l'extérieur. Le premier avantage, c'est que du coup, on gagne de la place à l'intérieur en termes de décoration, d'objets, il n'y a pas à les déplacer. Et puis, le plus important quand même, c'est que le fait que du coup, quand la baie est fermée et que ce sont des régions où il y a beaucoup de vent, eh bien, le vent va pousser vers le cadre et ça va améliorer finalement le côté hermétique. Et donc, le foyer va être protégé et la fenêtre, si elle est mal ouverte ou mal fermée, et bien là, il n'y a pas de problème. Et effectivement, concernant les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, et bien, il y a un invité qui sonne, là, tu ouvres et bam, le mec, il se prend la porte dans la figure. Voilà, ça, c'est tout l'art scandinave.
Et voilà, une dernière question, je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, une question de Vincent qui se demande comment tu fais pour danser mieux que Beyoncé sur du Beyoncé.
Oh, cher Vincent, merci pour ta question que je trouve très pertinente et objective. Je suis d'ailleurs surprise que tu sois le seul de toute l'équipe à t'en être rendu compte. Toi au moins, tu as l'œil. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, le talent, ça ne s'explique pas.
C'est, Voilà, c'est dans, dans des petits clips hein, qu'on peut retrouver sur nos stories Instagram.
Oui.
On peut danser sur de Beyoncé.
C'est ça. Hein. Donc, je dois dire simplement que je remercie chaleureusement mes parents de m'avoir dotée de ce groove, de cette légèreté, de ce déhanché, de cette souplesse hein, qui me caractérise et qui font mon succès sur scène. Beyoncé m'a elle-même demandé quel était mon secret. Ah, je vous jure. Et bien sûr, je lui ai dit de façon tout à fait modeste bien qu'elle sûr. Était mon modèle, mais que l'élève avait dépassé le maître et qu'il ne pouvait rien. Donc Vincent, hein, on en revient toujours au talent qui ne s'explique pas. Hein, je suis née avec ce don et c'est comme ça. Voilà, merci à tous.
Merci Soso. Allez, restez bien avec nous puisque en toute fin d'émission, Bruno nous parlera notamment du jeu Cyberpunk 2077. Mais pour l'heure, retrouvons le plus optimiste d'entre nous, hein, celui qui croit très fort en l'ouverture très prochaine des salles de cinéma. Voici Olivier pour sa chronique cinéma.
En 2021, on devrait voir beaucoup de films. D'abord, tous ceux qui ne sont pas sortis malheureusement en 2020, comme OSS 117, Top Gun avec Tom Cruise, le James Bond, le Dune de Denis Villeneuve, le film de science-fiction, ou le Kaamelott, l'Étuche 4, aussi Aline, le biopic de sur Céline Dion. Alors ça, c'est les films qui devaient sortir, qui sortiront en 2021. Et puis, il y a d'autres films qui vont sortir, encore plus intéressants. Il y aura trois films biographiques, hein, des biopics très intéressants qui vont sortir. On aura tout d'abord deux films français. Un film qui va traiter de Gustave Eiffel. Voilà, c'est un film avec Romain Duris et Emma McKay. Emma McKay, c'est une actrice qui joue dans la série Sex Education. C'est celle qui joue le rôle de Maeve, actrice britannique. Donc on suivra l'histoire entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourget. Vous savez que Adrienne, donc ça commence par un A, et la Tour Eiffel, c'est un A en fait, c'est un hommage à Adrienne. Voilà.
Mais heureusement que c'est pas appelé Xavier.
Alors, autre biopic très attendu, vous rappelez tous de Olivier Dahan qui avait fait La Môme avec Marion Cotillard. Donc là, il s'attaque à un autre monument féminin français. D'après vous, c'est qui la grande femme voilà, de la politique française qui est décédée?
Simone Veil.
Simone Veil, oui. Donc le film s'appellera Simone. Et pour prendre le rôle de Simone, eh bien, ça sera l'actrice Elsa Zilberstein. Oh. Ça lui va bien, je trouve.
Ah ouais.
Ça
a l'air.
Ouais. C'est la jeunesse hein, de Simone hein, Veil, oui. C'est dans les années 70. Et puis côté américain, on aura le grand retour de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est celui qui a réalisé Moulin Rouge et Roméo et Juliette. Donc là, il s'attaque à du très très haut. Il s'attaque à la biographie de Elvis Presley. Donc on verra un jeune acteur qui s'appelle Austin Butler. Voilà, donc on suivra les débuts d'Elvis Presley à l'âge de 13 ans, la rencontre avec son impresario qui est joué par Tom Parker, qui est joué par Tom Hanks, pardon. Et puis l'impresario s'appelle Tom Parker. Voilà, on suivra sa carrière au cinéma, son mariage avec Priscilla Presley, et puis aussi bien sûr sa vie d'artiste, voilà, de musicien et de chanteur. Sinon, un film français, il y aura pour toi, Raphaël. Je te propose un film de l'adaptation de la BD de Fab Caro, Zaï Zaï Zaï.
Ah, très bien.
Ah, tiens.
Voilà, très bonne idée. Donc,
avec dans le rôle principal Jean-Paul Rouve, et puis qui sera aussi accompagné de Julie Depardieu, et puis Ramsey, de Eric et Ramsey.
Pas mal.
Et côté français, il y aura aussi un film de Céline Sciamma, que j'attends beaucoup, hein, c'est Petite Maman, autour de la vie de deux enfants de 8 ans. Et puis côté américain, on fêtera le grand retour de Keanu Reeves dans le quatrième volet de Matrix.
Yeah,
yeah. Ah ouais, ben oui, ça devrait sortir. Ah oui, ça va être bien. Alors côté série, là il y a beaucoup de séries, alors je vous en ai sélectionné à peu près 7 ou 8. Côté français, là ça va débarquer bientôt, ça a débarqué hier, le 11 janvier, c'est la série OVNI sur Canal+. Et donc, c'est avec Melville Poupeau, Nicole Garcia, Jonathan Lambert. Et donc, c'est un bureau d'enquête spécialisé.
Inspiré de la soupe aux choux, non?
Non, ça a l'air très, très caustique, très une comédie, mais aussi très sérieux. Voilà, OVNI, ça c'est sorti hier. Et puis, il y aura aussi, alors là, je crains le pire, hein, parce que c'est sur TF1. Et TF1 a osé sortir Je te promets. Je te promets, c'est l'adaptation française de la grande série américaine This Is Us, pour ceux qui connaissent.
Ah bon ?
Voilà. Ouais. Donc on verra Camille Loucs, le rôle de Florence, la mère de famille. Et on verra donc ses enfants, les enfants qui sont grands. Donc il y aura Maud, qui est jouée par Marie-Lou Berry. Est-ce que vous connaissez This Is Us, la série américaine ?
Non.
Oui.
Vous
l'avez vu ?
Non,
oui. Série.
Non, non.
Donc là, il y aura une femme en surpoids jouée par Marie-Lou Berry, hein, Maud. Donc, dans la série américaine, on avait un acteur de film très connu. Là, ça sera un footballeur de Ligue 1. Et non. Puis, donc, là, il y avait aussi un fils adoptif qui était noir. Et là, ça sera un trader. Un trader, voilà. Donc, c'est un peu différent de la série américaine. Mais bon, ça va reprendre les mêmes gimmicks, les mêmes
scénarios. Un peu foireux, non ?
Oui, je sens quand même. Rien ne peut remplacer This Is Us. Sinon, qu'est-ce qu'on pourra voir ? On pourra voir la troisième saison de American Crime Story. Alors la première, elle était basée sur le procès d'O.J. Simpson. La deuxième, c'était sur le décès de Gianni Versace. Et donc là, ça nous parle de l'impeachment. Ça va revenir sur l'affaire Monica Lewinsky. Oh. Là, il y aura le portrait de trois femmes lors de la procédure de destitution lancée à l'encontre de Bill Clinton.
Ça, c'est sur quelle chaîne ?
Ça va être sur. Ça sera sur Canal+, je crois, ou Netflix, on verra bien. Et puis sinon, qu'est-ce que je vous propose d'autre ? Une série de science-fiction qui est très attendue par les aficionados de science-fiction, ça s'appelle Fondation. Apparemment, ça reprend. C'est une adaptation d'un recueil d'Isaac Asimov, qui est très connu dans le milieu de la science-fiction. Enfin, je parle de la série Fondation. Sinon, alors on aura aussi une série plus LGBT, ça s'appelle It's a Sin. Donc ça revient sur la communauté gay dans le Londres des années 1980. Et on suivra trois amis dont le quotidien va être bouleversé par l'arrivée du VIH donc, en Angleterre. Le teaser, il passe actuellement. Je vous conseille de le voir parce que c'est assez incroyable de voir le rapprochement avec la Covid-19. Enfin, ce qu'on disait à l'époque, dans les années 80, du VIH, ça ressemble un peu à ce qu'on dit actuellement.
C'est pas les mêmes possibles, quand même.
Non, mais voilà, autour des... Voilà, ça a été inventé, créé par quelqu'un, ça a été... Voilà, il y a toute cette théorie du complot, quoi, donc... Bref, et puis voilà, puis aussi une série qui s'appelle Disney va sortir beaucoup de séries autour des super-héros. On verra notamment Loki, vous savez, le frère de Thor, il y aura une série que pour lui. Voilà pour les séries intéressantes de 2021. Et puis d'autres petites séries qui vont faire le buzz, qu'on verra peut-être, hein, et pour lesquelles je ne parle pas. Voilà.
Ok. Eh bien, merci Olivier. Alors voici maintenant Bruno pour sa chronique « C'était mieux après ».
Oui, alors on a parlé de l'univers cyberpunk, ce futur souvent représenté dans les films de science-fiction, mais également dans les jeux. Et bien en fin d'année 2020 est sorti l'un des jeux les plus attendus de l'année, Cyberpunk 2077. Alors attendu parce qu'issu d'un jeu de rôle sur table, Cyberpunk 2020, attendu aussi parce qu'il propose un open world, c'est-à-dire qu'on peut se promener partout dans la ville. Alors même si ce n'est pas dans l'histoire générale du jeu, eh bien vous faites ce que vous voulez, car normalement tout est prévu, et même plus. Vous découvrez alors des interactivités originales, les personnes que vous croisez réagissent à vos faits et gestes, vous pouvez rentrer dans les appartements, les magasins, prendre des choses, en casser d'autres. Bref, une réalité virtuelle tout en 3D hyper réaliste. Bon, tout ça, c'est sur le papier, mais vous imaginez que développer un tel projet, eh bien, demande des années de travail. En fait, même beaucoup plus que prévu. Et les actionnaires ayant misé sur ce jeu commençaient sérieusement à s'impatienter. Du coup, les développeurs ont sorti le jeu avant qu'il soit tout à fait testé et corrigé. Résultat, ça bug sévère. Alors, sur PC, c'est encore jouable, hein, mais sur les consoles de jeux, là, ça devient critique, au point que bon nombre de joueurs ont demandé le remboursement. Alors Internet s'enflamme alors autour de ce jeu, les développeurs vont sortir des correctifs et des améliorations, mais le jeu sera réellement prêt que fin 2021, au dire de certains. Il est donc urgent d'attendre avant de dépenser les 60 euros de ce jeu. Il n'empêche que les images que l'on peut voir ici et là sont vraiment superbes. Le nombre de détails et les interactions avec les autres, ainsi que les décors, sont vraiment impressionnants. Donc je vous invite à voir les let's play sur Twitch. Bon, là, on a perdu Sonia. Le seul hic, c'est que c'est pour l'instant un jeu solo et on sait que la durée de vie de ces jeux est limitée. Donc, à voir sur le long terme si on ne va pas se lasser d'arpenter la ville. Car contrairement à un Animal Crossing, on ne construit rien. Hein, on personnalise son personnage tout au plus. Voilà, ça s'appelle Cyberpunk 2077. Je pense que ça parle à notre invité plus qu'à Sonia. Et c'est disponible sur console et PC.
Ça t'aurait intéressé, j'imagine, Mathieu, Aichi, je sais pas si
l'on... Ouais, bah j'ai eu l'occasion de le tester vite fait, c'est très très intéressant, mais en effet, bon, il a déjà été patché, donc c'est déjà beaucoup plus jouable, mais ça reste un super jeu en dehors des bugs, il est vraiment l'univers Cyberpunk est vraiment bien représenté.
D'accord.
Il y a une histoire vraiment de fond qui est très très intéressante.
Bon, bah, très bien. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs et à Aichi, notre invité du jour. Si vous avez aimé nous écouter, parlez-en autour de nous, de vous, et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, pour ce qui est du live, on se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. On se quitte avec Alex Rossi et son titre sulfureux, Falcia al Falcia. Bonne soirée et à bientôt, les amis.
Bisous.
Ouais,
faccia, 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 facc Radio G 101.5 FM.
Quoi ? Tu connais pas Génération Sport ? C'est des actualités sportives, des invités, et on parle tous ensemble des sports de la ville d'Angers.
Retrouvez Yann, Max et Alex qui décrypteront avec vous l'actualité sportive locale.
Génération Sport, c'est tous les mardis à 20h sur Radio G 101.5 FM ou le www.radio-g.fr.